Chaque fois qu'on entend un écologiste aujourd'hui, c'est soit une insanité, soit une connerie.
Le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto, tout ça, c'est rien.
Furax, l'atelier qui traque la désinformation climatique dans les médias français.
L'arnaque de l'hystérie écologique.
Vous respectez plus vos chiottes que la planète.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va écouter des reportages qui ont été réalisés pendant les vacances de Noël par les étudiants qui participent au cycle d'ateliers Furax autour de la désinformation climatique. C'est parti, on écoute tout de suite ce que nous ont concocté les étudiants et étudiantes.
Entre Noël et les soldes, vous êtes à la recherche d'une activité engagée pour faire une pause avec le système capitaliste. L'Académie du climat propose une fois par mois un atelier de design post-capitaliste qui promet en 2 heures de passer de l'idée à l'action pour rendre le capitalisme obsolète. Notre reporter Héloïse Pesselin s'est rendue à l'un de ces ateliers.
En ce samedi matin de vacances de Noël, nous sommes une petite dizaine de curieuses et curieux à nous rendre à l'Académie du climat. Venus seuls ou à deux, dans des âges allant de la vingtaine à la cinquantaine, chacun déambule dans la salle décorée de panneaux de bois et d'autres matériaux de récup, impatient de découvrir comment dépasser le capitalisme en 2 heures. C'est en effet le défi que s'est lancé le designer Antoine Valo, qui anime une fois par mois ses ateliers de design post-capitaliste à destination du grand public.
Donc, l'idée du design post-capitalisme, c'est de se dire, puisqu'il y a certains problèmes qui ont l'air d'être intrinsèques au capitalisme, est-ce qu'on peut essayer de concevoir un système, des systèmes alternatifs ? Ces ateliers, ils ont 2 objectifs. Un, c'est de s'amuser, et le deuxième, c'est de faire des trucs.
Pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, Antoine Valo commence par proposer une leçon intitulée « Le post-capitalisme en 10 minutes, satisfait ou remboursé », promet-il.
On a le réchauffement climatique, on a des robots et de l'intelligence artificielle qui va prendre de l'eau, on a les populations qui commencent à décroître, on a des inégalités qui augmentent et qui offensent notre sens de justice. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est tous super motivés pour passer à autre chose.
Et après la théorie, c'est l'heure de la pratique. On se lance dans une séance d'idéation. Armée de marqueurs et de post-it, l'idée est de faire éclore une réflexion autour des enjeux du post-capitalisme, par exemple en s'interrogeant sur les choses qui, dans notre société capitaliste, pourraient s'effondrer.
Le vivant, la terre.
Le vivant, la terre, oui.
J'en ai mis 3, j'ai mis l'eau potable, biodiversité, démocratie.
La finance et la confiance.
Ça arrive.
Et vient ensuite l'idéation la plus importante, pendant laquelle chacun a 4 minutes pour réfléchir à un projet pouvant être concrètement amorcé par le groupe pendant les 50 minutes restantes.
Je pensais, mais c'est très technique, un système de parasol pluie pour la récupération de l'eau, des installations qui soient publiques et qui soient constantes, mais quelque chose de léger, peut-être qu'on pourrait faire.
Cette idée proposée par Yacine Saïl, architecte de profession, convainc alors le groupe qui baptise le projet Au Sol et on se met à travailler sur sa mise en œuvre concrète.
Vous faites quoi là ?
Je suis en train de mettre le projet qu'on a fait sur un repository sur Git, donc que ce soit sauvegardé sur le cloud, et puis je fais créer les emails, ça, donc, je lance le site quoi.
Résultat, en 50 minutes, on conceptualise un modèle de parasol réversible à partir de toiles recyclées. En forme d'entonnoir, Au Sol collecte l'eau de pluie, puis se retourne sous forme de parasol pour réutiliser l'eau grâce à la brumisation pour se rafraîchir l'été. Après ces 2 heures d'atelier, Yacine Saïl entend bien poursuivre son projet par lui-même.
Je pense que je vais le poursuivre parce que je pense que c'est des petites pierres concrètes et c'est intéressant. Et bon, voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà envie de mener de toute façon seul et de trouver des partenaires qui semblent intéressés. Ça, voilà, ça me motive encore plus.
En 2 heures, on peut faire émerger des projets bien concrets. Et si vous aussi souhaitez faire émerger des solutions pour dépasser le capitalisme ou que vous avez tout simplement envie de tenter l'expérience, le prochain atelier se tiendra à l'Académie du climat le samedi 24 janvier.
Et si je ne me trompe pas, en off, tu nous disais qu'à certains ateliers, les idées développées, elles étaient poursuivies un petit peu à l'image de ce projet par les participants. Est-ce que tu as d'autres exemples ?
Oui, d'ailleurs c'est quelque chose de très intéressant. J'ai posé la question justement à Antoine Valo et il nous expliquait qu'un atelier précédent, Il y a une idée qui avait émergé de la science d'idéation, c'était le fait qu'à Paris et dans les grandes villes, on n'entendait plus trop le chant des oiseaux. Et donc, en 2 heures, ils ont réussi à monter une web radio qui s'appelle Cucuy FM et qui existe aujourd'hui. Et donc, chacun peut aller dans un endroit où il entend le chant des oiseaux et l'enregistrer. Et ensuite, il peut le mettre sur la web radio. Et si on se connecte, eh ben, on peut écouter en toutes circonstances le chant des oiseaux. Donc, c'est super pour réviser, voilà.
Et toi, du coup, quand tu faisais le reportage, est-ce que tu as participé à l'organisation ou juste tu t'observais l'atelier ? Enfin, l'organisation, je veux dire, l'atelier plutôt.
Bah en fait, à la base, juste je regardais sur le site de l'Académie du Climat et j'ai vu qu'il y avait cet atelier et le titre m'a interpellée. Et donc, je m'y suis rendue et j'ai juste demandé est-ce que je peux me mettre dans un coin, enregistrer, poser quelques questions. Et Antoine Valo donc, m'a dit participe. Et du coup, j'ai participé à l'atelier. Donc, j'ai participé aussi à proposer des petites idées, etc. Après, on s'est répartis en plusieurs groupes et c'est l'idée donc, de Au sol, le parasol pluie qui a été aussi choisi. Et c'était hyper intéressant.
Du coup, c'est quoi le concept de Au sol, le parasol pluie ?
Bah du coup, j'en parle un peu dans le reportage, mais le principe, c'était que dans les villes, comme c'est beaucoup bétonné, il y a beaucoup d'eau qui est perdue. Et en fait, donc, l'idée, ce serait de recycler les toiles de vieux parasols qui ne sont pas réutilisées, donc c'est en toile. Et on fabrique quelque chose qui se présente sous la forme d'entonnoir. Comme ça récupère l'eau de pluie, c'est ensuite stocké dans des bacs en plastique. Et le parasol peut ensuite se retourner dans l'autre sens. Et avec un système de brumisation, on peut réutiliser l'eau. Et en fait, c'est assez fou parce que cette idée a été imaginée donc, en 50 minutes. Et là, il y a déjà un site internet qui existe à l'heure actuelle. Donc, c'est Au sol, O-S-O-L. Enfin, vous pouvez retrouver sur internet. Et chaque personne qui veut participer au projet peut aller voir. Et si on est intéressé, par exemple, là, il y a des prototypes qui vont être créés par Yacine Saïl qui est en train de développer le projet. Mais voilà, donc c'est pour l'instant un prototype, mais c'est hyper intéressant de voir qu'en 2 heures, on peut déjà avancer à quelque chose de concret.
Et du coup, c'est quel genre de personnes qui se rendent à ces ateliers ?
Ouais, mais c'est aussi une question. C'est aussi une question que je me suis posée. Et en fait, il y avait une dizaine de personnes, donc pas mal, et c'était assez varié. Enfin, il y avait à la fois des gens qui avaient la vingtaine, un peu comme moi, et il y avait aussi des personnes plus âgées, il y en avait pas mal dans la trentaine, je dirais. Et eux, soit ils avaient déjà des idées qu'ils voulaient développer. Par exemple, il y en a un qui avait pensé à une idée de faire du Wi-Fi en commun, parce que tout le monde a, par exemple, une box Wi-Fi chez soi, alors qu'on pourrait tout simplement le mettre en commun. Et donc, il est venu à l'atelier pour essayer de développer cette idée. Et voilà.
Merci beaucoup, Héloïse, pour ce reportage. Donc, on passe maintenant à notre second épisode dans le cadre des reportages sur l'environnement, la consommation et la vie quotidienne, disons. On se retrouve désormais dans un bar aux apparences les plus classiques, cœur du quartier Moulin, pour se retrouver autour d'un verre, mais aussi participer à des animations des diverses associations pour la protection du climat, manger un plat à prix solidaire ou à aller à un drag show. Reportage de Gaïa.
Vendredi soir, c'est la réouverture de la Moulinette dans le quartier Moulin de Lille. On traverse de lourds rideaux verts pour entrer dans le bar, réchauffé par un vieux poêle à bois au centre. Les tambours de machines à laver pendent du plafond, reconvertis en lumière pour les usagers du bar. Les murs sont couverts d'affiches de drapeaux militants. Du vieux rock nous accueille. Thomas, le co-gérant, nous attend au bar et présente le lieu.
Donc la Moulinette, c'est un bar, café, cantine, concert. On est entièrement végé-vegan. Voilà, par choix. On essaye de faire des prix populaires, voilà, avec des produits de saison, local et bio. Donc en semaine, on fait cantine le midi. Et le soir, on est plus en mode café, du coup, avec des concerts, des expos, des stand-up.
Ses clients sont nombreux et variés. Ce soir, ils viennent du quartier Moulin jusqu'aux Pays-Bas. Et il y a une raison qui semble mettre tout le monde d'accord.
Moi, je trouve que c'est convivial et qu'on s'y sent bien. Il n'y a pas de chichi et c'est tout ce qu'on cherche.
Mais comment ça fonctionne au sein de ce petit bar qui fait tant de choses ? On jette un coup d'œil dans les coulisses avec Thomas.
Je sais. Bah, ici, c'est le bar, du coup. Mais on a d'autres espaces, du coup. À l'étage.
Ok. Bonsoir.
Une petite mezzanine, plutôt chill, un peu hauteur, qui surplombe. Et ici, c'est une salle qu'on loue pas vraiment, parce que c'est pas payant, mais que les assos peuvent réserver. Voilà, les assos, entreprises, n'importe qui en fait, ou même groupe.
Et voilà. Et du coup, bon, c'est encore un working project, mais après, on finit déjà de faire le tour de l'endroit. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un endroit qui est construit par les personnes qui vivent dans le quartier. Du coup, genre, le bar, en gros, il y a plein de personnes différentes qui y vont. Enfin, toutes les personnes à qui j'ai demandé l'ont dit. Enfin, on rencontre toujours des personnes qu'on verrait pas dans notre vie quotidienne. Et du coup, voilà, c'est un endroit super sympa. Il y a pas mal d'associations, en fait. Enfin, en fait, c'est très engagé pour le climat en particulier ici. Et du coup, voilà.
Et tu disais, il y avait des ateliers dans ce bar, de ce que j'ai compris. Et du coup, il y avait quoi comme type d'atelier? T'as des exemples?
Ouais, en gros, du coup, c'est vraiment à l'initiative des personnes, enfin des usagers classiques. Du coup, par exemple, pour Noël, il y avait un atelier genre emballage des cadeaux, mais avec des pubs. Et en gros, c'est une asso à Lille qui est anti-pub et ils font plein de petits ateliers du style. Et du coup, là, c'était faites vos cadeaux avec des pubs et tout ça, et des petits stickers, tu sais, militants dessus. Et après, il y a des trucs plus classiques, entre guillemets. Par exemple, il y avait des soirées jeux société avec une association qui s'appelle Entourage. Et le but, c'est de permettre à des personnes qui sont isolées, du coup, soit des personnes âgées, des personnes à la rue, de passer un moment tous ensemble avec d'autres personnes qui ne le sont pas. Et du coup, ça crée du lien et enfin, deux heures de choses en fait.
Et toi, du coup, à la base, tu connaissais ce bar ou tu l'as découvert pour le reportage?
Pour le reportage, mais après, j'ai plein de potes qui connaissaient en fait. Au final, je me suis rendu compte que voilà, c'est assez connu dans le quartier du coup Moulin. Parce qu'en gros, en fait, du coup, on ne le dit pas dans le reportage, mais c'est un quartier qui est assez populaire. Et en fait, il y a très peu de bars et d'endroits pour se retrouver de base. Et du coup, la Moulinette, genre, c'est connu pour ça. Et du coup, au final, ça attire vraiment toutes les personnes de l'île. Et c'est super sympa.
Est-ce que tu as eu le plaisir de pouvoir y manger des plats végés et vegan ou tu n'as pas goûté encore?
Non, j'ai pas pu, malheureusement. Mais du coup, le soir-là, ils faisaient un Welsh vegan qui avait l'air vraiment super bon. Ils font plein de trucs au maroilles parce que voilà, c'est le Nord, c'est super. Et ouais, voilà. Mais la prochaine fois.
Super, bah on va passer au reportage d'après. C'est parti.
Face au bouleversement climatique, comment habiter notre monde? C'est la question qu'explore l'exposition Migration-Climat au musée de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris. Reportage d'Éléonore Téveno.
De la Savoie au delta du Mékong, en passant par le Sénégal ou encore par les îles du Pacifique, l'exposition donne la parole à des populations souvent invisibilisées, touchées par des bouleversements climatiques. Elle mêle œuvres d'art, sciences, photographies ou encore vidéos avec un message engagé. Mohamed Kaf, médiateur culturel du musée de l'immigration.
L'exposition Migration et Climat, ce qui est très important, c'est comprendre le sous-titre « Comment habiter notre monde ?» parce qu'en fait, tout vient de là. La migration n'est pas automatique en raison d'un réchauffement climatique, d'un dérèglement climatique, d'une catastrophe naturelle. C'est son impact sur l'habitabilité et la capacité des gens à pouvoir rester ou pas rester. Ça peut être un choix stratégique. Autre élément majeur de cette exposition qui est un peu à contre-pied, un peu contre-intuitif, c'est que ça récuse le terme de migration, l'expression de migration climatique. C'est-à-dire que les mouvements migratoires qu'on présente comme étant uniquement migration climatique ne sont pas que migration climatique, elles sont politiques et économiques. Et qu'en fait, le détonateur, c'est le climat qui révèle les situations économiques ou politiques de ces territoires.
Et les visiteurs ne semblaient pas indifférents face au récit de l'exil.
J'ai beaucoup aimé. La dernière partie m'a ouvert sur pas mal de construction de projets, d'alternatives, etc., qui peuvent être mises en place, qui ne sont pas forcément toujours très enthousiastes de déplacer des villes, de déplacer des populations, etc. Là, on comprend qu'il va y avoir des sacrifices à faire.
Oui, j'ai trouvé l'exposition extrêmement bien faite. Même s'il y a beaucoup de choses que je connaissais, les redécouvrir, c'est toujours bien. Et j'ai quand même appris plein de choses aussi.
Une exposition à retrouver jusqu'au 5 avril 2026 au Palais de la Porte Dorée.
Et du coup, toi, tu as eu le temps de voir cette exposition. Est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
J'ai adoré l'exposition. Je trouve que déjà, en termes d'œuvres, c'est super beau. Il y a des œuvres qui sont très jolies et il y a aussi beaucoup d'infographies pour en apprendre plus avec des petits textes qui sont toujours courts mais très pertinents. Et j'ai eu la chance d'arriver quelques minutes avant le début d'une visite guidée avec le médiateur culturel qu'on entend dans le reportage, qui était vraiment passionnante. C'était une visite d'une heure pour un tout petit bout de l'exposition. Et finalement, je pense qu'on était une vingtaine au départ à l'écouter et on s'est retrouvés à être énormément autour de lui à la fin, car c'était vraiment passionnant.
Du coup, c'est qui les gens qui viennent écouter? C'est plutôt des touristes ou des... Enfin, est-ce que tu as su voir à peu près?
Il y avait vraiment tous les âges, puisque l'exposition elle est aussi adaptée aux enfants, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi une petite partie qui se passe dans l'aquarium. Et donc, je ne sais pas, par exemple, il y a une fresque sur l'océan. Donc, il y avait un petit peu tous les âges et tous les profils, je pense.
Mais du coup, pendant la visite guidée, ça veut dire que le médiateur, il explique ce qu'il y a derrière les photos, pourquoi elles ont été prises, par qui, etc.
Exactement, et franchement, j'aurais aimé qu'elle dure 10 heures, cette visite guidée, parce qu'il nous a présenté donc, un petit bout, donc quelques œuvres, avec à chaque fois une explication. Et comme il l'explique, en fait, c'est aussi une expo qui se veut être historique, c'est-à-dire qu'il va nous parler, par exemple, du mildiou qui a contaminé les pommes de terre en Irlande, ou du Dust Bowl aux États-Unis, et puis des impacts du changement climatique aujourd'hui, comme on a parlé de trouvailles dans la Chartreuse en France, d'objets qui nous font dire qu'en fait le climat a poussé les humains et les humaines à s'adapter.
C'est parti pour le prochain reportage.
En période de fête, la question des cadeaux est centrale. Longtemps mal perçue, l'offre de cadeaux d'occasion s'impose dans les usages. Selon l'IFOP, en 2025, près d'un Français sur deux déclare en avoir déjà offert. Adèle Mondière est allée au marché du livre ancien et d'occasion, dans le 15e arrondissement de Paris, pour s'intéresser au sujet.
Aux abords du parc Georges Brassens se tient le marché du livre ancien et d'occasion, sous deux ailes aux chevaux. Une vingtaine de bouquinistes exposent leurs livres, comme Alain.
Mon nom est Alain Joyer, je vends des livres au marché des pages parisiennes, c'est une association. Chaque bouquiniste, parce que nous sommes bouquinistes et non pas libraires, chaque bouquiniste paye à la semaine, au week-end, sa présence ici.
Bouquiniste depuis 30 ans, pour lui, le secteur est en perte de vitesse.
On peut survivre, oui, de moins en moins, parce que, comme vous le disiez, les clients sont de plus en plus rares. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui remplacent les vieux qui disparaissent. Parce qu'il y a d'autres loisirs, d'autres plaisirs, d'autres occupations, d'autres lectures aussi.
Pourtant, quelques jours avant Noël, il y a affluence. L'occasion attire.
Aujourd'hui, c'était juste à la recherche de quelque chose de différent pour faire un petit cadeau de Noël. C'est différent parce qu'on trouve des choses que on va pas trouver forcément en boutique. Et c'est des choses plus anciennes.
Pour la plupart de ces livres, on ne peut pas les trouver dans une librairie ou une bibliothèque. Et si on les trouve, c'est beaucoup plus cher. Donc ici, c'est super. Est-ce que vous pourriez offrir quelque chose d'occasion à Noël ?
Alors pendant très longtemps, j'aurais dit non. Et maintenant, oui. Alors ça dépend juste de l'état de ce qu'on achète. On trouve des choses quasiment en état neuf. Alors là, oui, effectivement. Ouais. Ouais, sans l'ombre d'un doute, là-dessus, moi, j'ai évolué. Ouais. À une époque, non, j'aurais pas pu. J'aurais l'impression de donner quelque chose de bradé. Alors c'est stupide parce que le bien, il est aussi bien. Vous avez l'intelligence de le payer un peu moins cher, et puis ça permet d'acheter quelque chose qui a déjà été produit. Alors après, des gens vous diront que c'est pas bon peut-être de limiter la production, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut commencer à savoir le faire.
De l'autre côté du stand, Sophie, retraitée, vient depuis 2 ans sur le marché afin de pouvoir se débarrasser de ses livres sans les jeter.
Les livres, on a du mal à les donner même. Vraiment, plus personne ne veut de livres, même les bibliothèques. Donc, c'était une bonne idée de venir recycler et de redonner une vie à ces livres, d'où le marché d'occasion.
Et ça marche bien ?
On ne peut pas dire que le livre sera au beau fixe, mais il y a quand même encore même des jeunes qui viennent acheter quelques poches, quelques titres dont on leur a parlé. Voilà, on arrive un peu à quand même à donner envie de lire.
Pour donner envie de lire, la seconde main a de quoi séduire. Que ce soit pour le geste écologique ou les prix cassés. Au final, on en veut toute l'année.
Et toi, du coup, t'as trouvé des cadeaux de Noël dans ce marché d'occasion ?
Alors, au final, moi, j'aurais pu trouver des cadeaux de Noël, mais c'était pas mon but premier. J'avoue, je suis vraiment venue pour le reportage et que j'étais vraiment de l'optique d'aller interroger les gens. Mais le truc que j'ai le plus aimé, c'était l'offre notamment de DVD, qui était vraiment très peu cher, quelques euros. Et moi, qui aime beaucoup les films et tout, je trouvais ça super. Après, au niveau de l'offre des livres, c'était surtout des livres plutôt anciens et un peu plus vieux, donc c'était moins ce que je cherchais. Mais tout le monde peut trouver quelque chose sur ce marché. C'est ça qui est super. Et c'est trop bien aussi de pouvoir un peu fouiller et de découvrir ce qu'il y a. J'adore le concept au final.
Parce que du coup, la dame a dit qu'il y avait pas mal de jeunes également. Est-ce que tu as vu, toi, qu'il y avait un peu de la diversité dans les profils des gens qui y allaient ?
Après, je ne sais pas si c'était parce que c'était en période de fête, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine diversité. J'ai parlé à plusieurs étudiants, notamment des étudiants internationaux, et ça m'a aussi un peu surprise. Je ne pensais pas que ça faisait parler de lui autant pour qu'il y ait aussi des étudiants internationaux. Et du coup, je trouvais ça bien aussi qu'il y ait plusieurs types de profils. Après, il y avait Enfin, ça se voyait qu'il y avait aussi vraiment les habitués, qui connaissaient tout le monde, qui me disaient « Ah, mais tu peux aller parler à lui ou à lui, c'est super intéressant », qui étaient souvent plus âgés. Donc les habitués, c'est plus des plus âgés. Mais en tout cas, là où je suis venue, il y avait quand même une diversité des profils que je trouve qui était surprenante et je trouvais ça super bien, quoi.
Et du coup, les stands, ils sont présentés comment ? Est-ce que c'est comme genre en marché avec juste un libraire et ses livres ? Ou est-ce que c'est plus comme un friperie avec genre des gros tas de livres où on peut piocher un peu dedans ?
Il y avait un peu des deux. Je trouve ça dépasse. Il y en a, ils font ça vraiment, c'est vraiment leur métier. Comme le premier intervenant, c'est vraiment son métier, il fait ça depuis 30 ans, donc c'était un peu bien présenté. Il y en a d'autres, ils font ça un peu à côté, notamment comme la dernière intervenante, Sophie, qui fait ça depuis qu'elle est retraitée. Et du coup, c'est un peu plus disposé et chacun peut, c'est un peu en pile. Et du coup, chacun, faut vraiment un peu plus fouiller. Là, c'est moins disposé, un peu joliment. Du coup, ça dépend vraiment des profils des gens qui vendent, parce qu'il y a des profils super différents. Et ça dépend du coup du vendeur.
La première personne avec qui tu t'entretiens dans ton reportage cite le prix des étals et de l'emplacement. Est-ce que toi, tu as une idée de ce prix-là, de ce que ça représente pour eux, par exemple, louer un emplacement à la journée ou pas du tout ?
Alors, je t'avoue que non, il ne m'a pas donné les chiffres. Il m'a juste dit que c'était payant à la semaine à chaque fois, qu'il fallait réserver son emplacement. Et du coup, j'ai pas vraiment d'ordre d'idée de ce que ça va coûter. Désolée.
Et quelle est un peu ta prédiction pour le futur de ce type de marché avec parce qu'il y a beaucoup de gens qui en viennent, reviennent à l'analogique. Et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de monde qui va y aller ?
C'est dur à dire. J'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui aille parce que je trouve que c'est des super initiatives. Après, est-ce que ça va se passer ? Je ne suis pas sûre parce que comme il dit Alain au début... Globalement, c'est plus lui qui est là tous les week-ends quasiment. Il voit plutôt une baisse et du coup, je pense que c'est plutôt ça qui va peut-être continuer. Après, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Ça se trouve, ça va mal se passer, on va revenir à ça, on ne sait pas. Hein, mais du coup, j'aimerais bien que ça qu'il y ait plus de monde, mais je ne pense pas en vrai.
On passe du coup au prochain reportage qui sera celui de Zoé.
En cette période de Noël, donner une seconde vie aux objets peut être un acte aux bénéfices multiples. On prend soin de son portefeuille, de la planète et parfois même des autres. À la mi-décembre, ce sont vêtements, livres et objets du quotidien qui sont mis en avant sur les étals de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Cette vente de seconde main, pensée comme un geste écologique et solidaire, se révèle également être une rencontre intergénérationnelle. Le but ? Trouver les bons plans pour des cadeaux tout en réduisant son impact sur l'environnement et en générant des fonds pour les œuvres sociales de la paroisse. Un double engagement entre environnement et charité que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage réalisé quelques jours avant Noël. Reportage de Zoé Cameron.
Les cloches sonnent 10h ce jeudi 11 décembre dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs du 3e arrondissement de Paris. Beaucoup de monde à l'intérieur de l'église pour un jeudi hors vacances scolaires et sur le temps de travail, mais ce n'est pas pour rien. La paroisse inaugure dès 10h une braderie solidaire de Noël qui durera jusqu'à samedi soir. Dans la travée de cette église du 15e siècle, une file impatiente aux visages multiples se dessine. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, s'alignent les uns derrière les autres pour leur chasse au trésor. Acheteurs seconde main certes, mais offriront-ils des cadeaux de seconde main cette année à Noël ? Plongés dans le silence de cette église, nous discutons avec la dame devant nous. Retraitée, elle vient depuis Meudon pour assister à l'événement. Vous venez pour essayer de trouver quelques cadeaux ou
Des bouquins.
En effet, dans cette braderie, il y en a pour tous les goûts. Il y a un rayon livres, livres pour enfants, et même une section intitulée peau livres. En plus de cela, un rayon vaisselle, bibelots, chaussures, accessoires et surtout vêtements. Nous rencontrons un autre client à la sortie de la braderie, en train d'organiser ses achats.
Oui, mais actuellement, la seconde main, c'est ce qui est à la mode. Hein, parce que nous tous, on n'a pas les moyens d'aller dans les magasins avec les petits salaires qu'on a. Donc, on vient souvent dans les ventes d'église pour profiter un peu.
Ouais.
D'avoir des choses qu'on ne peut pas avoir si, avec nos bourses.
Très bien. Est-ce que vous avez prévu de faire des cadeaux d'occasion cette année ?
Oui, j'ai prévu de faire d'occasion. Ouais. J'ai acheté quelques jouets pour mes petits-fils.
Des jouets pour les petits-enfants et des livres à offrir. Nous aussi, nous faisons le tour pour trouver des bonnes affaires et des cadeaux de Noël. Au passage, nous discutons avec Jean, bénévole pour l'occasion et fidèle de la paroisse depuis 40 ans.
On propose que les gens achètent ce qui leur fait plaisir. Si c'est pour faire un cadeau, ils font un cadeau. Mais c'est leur problème, ouais. C'est pas le nôtre. Hein.
Très bien. qu'est-ce qui se vend le mieux, vous trouvez, pendant ce genre de vente ?
Il y a... ceux qui vendent souvent lui beaucoup les vêtements et puis essentiellement hein, je pense qu'il y a une grosse demande de ce côté-là.
Avec 3 articles vestimentaires à la main, Jean a certainement vu juste. Coût total des achats, 9 euros. Mais alors à quoi serviront ces 9 euros?
Ça sert aux œuvres de la paroisse. Ah oui.
Non,
notamment
c'est moi qui l'ai ça.
Le café aux Anames, c'est un ensemble.
Mais je n'ai pas besoin de ça.
C'est un groupe qui organise des petits déjeuners pour les gens de la rue, par exemple.
Visite
dans les prisons, des maraudes dans la rue, etc.
En bref, en achetant dans une paroisse, vous soutenez les œuvres de bienfaisance tout en vous faisant plaisir.
Ça avait l'air animé un peu.
Il y avait énormément de monde, effectivement. Et donc, c'est une très grande église avec beaucoup de volume, même dans la hauteur sous plafond, etc. Mais ce qui était très intéressant, c'était que c'était réservé qu'à une seule côté de l'église, donc comme une file, en fait. Et il y avait énormément de monde. Je suis arrivée pile à l'heure d'ouverture et la queue était jusqu'à l'extérieur de l'église. Donc ouais, ça se bousculait. Je voulais interviewer davantage de personnes sur place en train de faire des achats, mais les courants étaient très mal organisés, on va dire. La gestion de la foule n'était pas là.
C'était quoi comme type de personnes qui venaient à cette braderie, c'est ça ?
Il y avait une bonne diversité de personnes. Il y avait quand même beaucoup de personnes retraitées, mais c'était du coup hors vacances et sur le temps de travail. Mais il y avait aussi beaucoup de jeunes. Et surtout, il y avait un forfait qui était aussi disponible pour des personnes qui étaient à la rue, qui avaient le droit de prendre 10 ou 15 articles gratuitement. Donc, il y avait aussi une diversité à ce niveau-là.
Est-ce que il y a beaucoup de paroisses justement qui font ce type d'événement? Parce que une braderie sur 4 jours, c'est sportif quand même, c'est long.
Oui, effectivement, c'est sportif. Et de ce que j'ai vu, moi je suis une grande adepte des ventes de seconde main, mais c'est vrai que la période avant Noël, entre novembre et décembre, c'est une période où la levée de fonds des paroisses, elle est très active, on va dire. Et la vente de seconde main, c'est quand même quelque chose qui permet d'amener beaucoup de monde de l'extérieur qui ne sont pas des réguliers de la paroisse, justement.
Est-ce que les gens venaient quand même prier de l'autre côté de l'église, du coup ?
Il y avait des gens qui priaient, effectivement, mais ce n'était pas non plus la majorité des gens. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient des réguliers de la paroisse, qui animaient l'événement, qui étaient là en tant que bénévoles, qui servaient le café, etc., mais qui n'étaient pas là pour prier en même temps.
Après ces reportages, les étudiants et étudiantes ont fait un autre exercice qui consistait à écrire une chronique avec quelques contraintes. On les écoute tout de suite. La première à passer, c'est Rabab.
Le Department of War, le ministère de la guerre américain, vient de lancer sa stratégie d'accélération IA. Si on se rappelle les 34 milliards de dollars en IA de budget sécurité en 2022 ou les 2 milliards de dollars en projet unclassified, donc top secret, on a déjà l'impression que les investissements dans ce domaine battent au galop. Et on pourrait se demander ce que ça veut dire vraiment d'accélérer donc cette stratégie. Peut-être que Larry Ellison a une idée de comment utiliser cet argent pour la sécurité des Américains. Oui, le même Larry Ellison, CEO de l'entreprise technologique Oracle, les médias CBS et CNN, et maintenant même de TikTok. Il nous dira que les citoyens devront se comporter de manière exemplaire car nous surveillerons et enregistrerons constamment tout ce qui se passe. Bon, vraiment de quoi nous faire sentir en sécurité. Même Bentham n'aurait jamais pu prédire une telle chose. Un panopticon digital, un œil invisible sur nous, H24, 7 jours sur 7. Dans quelques mois, votre frigo va pouvoir vous dénoncer au gouvernement fédéral pour ne pas avoir prêté allégeance au régime suprême en vous servant de jus le matin. Bon, c'est pas grave, pas trop de galère. Il y aura les drones de IA Palantir qui pourront vous déposer en cellule de détention tout de suite avant de partir pour tuer des enfants. Bon, en plus, l'IA, enfin, elle n'a pas que des soutiens, mais aussi beaucoup de critiques, notamment sur l'impact environnemental de ces data centers. Mais donc, une fois que le data center est construit, qu'est-ce qui se passe quand ces drones sont envoyés au Congo pour surveiller la sécurité des mines ou en Palestine pour veiller à la sécurité de la côte ? Quel sera l'impact environnemental de toute cette sécurité, on le rappelle ? Bon, l'historien britannique Arnold Tenby disait que les civilisations meurent par suicide et non pas par meurtre. Est-ce que les États-Unis ne seraient-ils pas en train de rédiger leur lettre d'adieu ?
Super, merci beaucoup pour cette chronique Rabab. On enchaîne tout de suite avec Jules qui va nous parler de la crise agricole en France.
Oui, hier après-midi, ce sont des dizaines de tonnes de pommes de terre qui ont été déversées devant l'Assemblée nationale. Une action symbole d'une colère profonde agricole qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, avec comme cause la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire, ainsi que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui a été adopté malgré le nom français. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans Le Monde, l'historien Edouard Lynch nous rappelle néanmoins que cette colère agricole n'est pas nouvelle et qu'elle s'inscrit dans un long processus protestataire. Dès la crise viticole de 1907, puis dans les années 1930 et durant la modernisation agricole de l'après-guerre, les agriculteurs ont combiné négociations, manifestations et actions, parfois violentes, pour obtenir protestation et soutien de l'État. Les actions parisiennes, rares mais symboliques, rappellent le blocus annoncé des Halles en 1936 par Henri Dorgère, les mobilisations du Larzac dans les années 70 ou la grande manifestation FNSEA de 1982, inscrivant la colère actuelle dans un répertoire d'actions historiques bien établi. Dans les syndicats mobilisés à ce jour, on retrouve notamment la Coordination Rurale, un syndicat proche de l'extrême droite et considéré comme climato-sceptique, dont la présence de la députée insoumise Aurélie Trouvé à leur côté a interrogé le média Reporter qui titre « Agriculteurs à Paris, que fait LFI avec la Coordination Rurale ?» Dans son papier, la journaliste Léa Gage explique que l'élu a dit vouloir s'y rendre avec prudence, partageant certaines revendications sociales et économiques comme les prix agricoles ou encore le Mercosur, tout en assumant de profonds désaccords, notamment sur l'écologie et les normes environnementales.
Super, t'as bien taffé. Bravo Jules pour cette revue de presse, c'est pas un exercice facile non plus. Et Zoé va se prêter maintenant à un exercice encore plus dur, celui du billet d'humeur autour des municipales 2026.
Bonjour et bienvenue. Question brève mais sévère, est-ce que vous tenez à votre argent et à celui de votre métropole ? À l'approche des élections municipales 2026, ce sera peut-être un aspect à prendre en compte dans l'isoloir. Et oui, on a décidé aujourd'hui de vous présenter les profils des candidats à la mairie de Paris pour 2026. C'est parti ! En premier lieu, Madame Sophia Chiquérou, 46 ans, candidate LFI, est sur son beau CV de l'escroquerie présumée et abus de biens sociaux, ceux pour lesquels elle sera bientôt jugée, mais attention, elle est évidemment présumée innocente. Dans la catégorie loisirs de son CV, management toxique et menaces en interne contre des membres de son propre parti. Mais bon, peut-être que les autres candidats seront meilleurs que cela, non ? Et non, pas forcément. Pour la liste LR, on a bien évidemment la députée macroniste Madame Rachida Dati, au CV impressionnant. Fière sarkozyste et surtout anti-macroniste assumée en déclarant que les macronistes sont tout autant des traîtres de gauche que des traîtres de droite, mais voyons un peu son CV. Lobbyiste impressionnante pour les intérêts privés d'entreprises bénéfiques pour la société et de la planète, je parle évidemment de Total et de GDF. Attention en revanche, en discutant de ses affaires, à ne pas seulement nationaliser son engagement lobbyiste, car elle prête également ses services extraordinaires à l'étranger à des régimes modèles comme l'Azerbaïdjan, que Amnesty International qualifiait à l'époque de autoritaire. Méfiez-vous en revanche, elle n'a pas pour autant été formée par notre faux gauchiste caviar préféré, Raphaël Glucksmann, mais là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, candidate pour la droite des droites, nous avons Madame Sarah Knafo, qui elle aussi cumule des beaux accomplissements. Sorbonne, Sciences Po, ENA, magistrate, etc. Tout ce travail pour devenir maître de la campagne présidentielle de Monsieur Éric Zemmour. Et oui. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'ils ont lancé un petit défi à table un soir pour savoir si oui ou non elle ferait plus de 7,07% à la mairie de Paris ? Moins de dinguerie judiciaire à son actif face à sa compétition, mais elle se rattrape avec ses opinions spéciales. Elle a pour admiration le trumpisme. Mais peut-être que le Groenland sera le nouveau Paris sous un mandat de Sarah Knafo. Ensuite, pour la gauche idéaliste PSU et ancrée dans son héritage mollement engagé, nous avons notre premier homme candidat, Emmanuel Grégoire. Pas grand-chose à dire à part que c'est le successeur d'Anne Hidalgo. C'est tellement le seul truc que je sais sur lui que c'est comme si c'était la femme de Hidalgo. Pas le temps de couvrir en 3 minutes malheureusement, mais le dernier profil, c'est pour la bannière Renaissance ou Horizon. Je ne sais pas dire quelle est la différence entre ces deux partis politiques. Bref, connaissez-vous Pierre-Yves Bournazel ? Silence dans la salle. Moi non plus, avant l'écriture de cette chronique. Engagé dans la politique régionale et locale depuis son début de carrière, je n'ai rien de tangible à dire, à part qu'il se présente comme obstacle à Rachida Dati. À vrai dire, est-ce que Sarah Knafo n'a pas le même but ? Mais enfin bref. Dans votre isoloir au mois de mars, pensez à vos belles balades sur le quai, sans voiture. Et sinon, à ce que ça donnerait si Rachida Dati réinjectait dans la politique locale ses 900 000 euros de Renault, ses 300 000 euros de GDF Suez, etc. Dans ce monde idéal, votre passe Navigo n'augmenterait pas de 3% par an, en tout cas. Merci beaucoup.
Super! Beau travail et c'était pas facile. Bravo Zoé. Et pour rester sur le thème des municipales 2026, on va donner la parole tout de suite à Éléonore.
Donc dans la lignée de Zoé, aujourd'hui je me demande en fait, est-ce que les candidats aux municipales de 2026 sont tous des pourris ? Parce que pour écrire cette revue de presse, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Les affaires judiciaires sont presque omniprésentes dans les campagnes municipales, comme le pointe un article du média indépendant Blast. Alors c'est parti pour un petit tour d'horizon des petites affaires en justice de nos candidats démocratiques. Alors on démarre avec Rachida Dati, donc Zoé t'en a parlé, à Paris, qui par exemple est accusée de corruption et trafic d'affluence, wouhou ! Et sans parler de tout ce qu'elle n'a pas déclaré, comme Zoé tu en parlais. On continue avec Sophia Chikirou, son adversaire de la France Insoumise, qui est elle aussi mise en examen pour cette fois escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance. Dans le dossier du financement de la campagne 2017 de Mélenchon. Et à Marseille, tout pareil. On a Martine Vassal, une candidate de droite qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille pour... Cette fois, vous pourriez la voir, c'est facile. Trafic d'influence et corruption, ouais ! On enchaîne. Nora Romagna Preziosi, candidate de la droite également, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et recel. La liste est longue. Je pourrais continuer avec le candidat RN, évidemment, Franck Alizio, qui se retrouve aussi au centre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille. Franchement, je me répète, pour détournement de fonds publics, on a aussi le maire sortant, Benoît Payan, qui aurait... Quant à lui, dont le parquet de Marseille examine une alerte sur des heures supplémentaires payées, non travaillées, de fausses vacations horaires à répétition, et j'en passe. Sinon, le journal Politico n'est pas en reste, puisque lui aussi a remarqué que finalement, les notes de frais des maires, c'est presque une nouvelle arme pour faire campagne. Allez, cette fois-ci, j'ai un seul exemple. Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui a des notes de frais de 9000 euros, alors qu'il n'est resté que 4 mois en poste. Allez, un petit dernier, mais celui-là, je pense que vous saurez qui c'est. Des robes Dior à 6320 euros, un manteau Burberry à 3067 euros. Ça vous dit quelque chose ? C'était Anne Hidalgo, les notes de frais d'Anne Hidalgo.
Et coup dur pour la politique française. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette chronique. On enchaîne parce qu'il ne reste que 6 minutes maintenant pour enregistrer tout ça. Adèle, on t'écoute pour une chronique culturelle sur la crise des agriculteurs.
En ce moment, on parle beaucoup des agriculteurs qui se mobilisent, notamment contre l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne. En effet, ils redoutent une concurrence accrue sur certains produits et donc une perte de marché. Cela m'a fait penser au film « Les algues vertes » tiré de la BD du même nom. Le film, réalisé par Pierre Jolivet, raconte l'histoire vraie d'Irène Leroux, une journaliste qui a enquêté sur le phénomène des marées vertes et les responsabilités de l'industrie agroalimentaire dans ce phénomène. Durant son enquête, qui commence en 2014, Irène Leroux se confronte à l'hostilité des acteurs de l'agroalimentaire qui ne veulent pas répondre à ses interrogations. Et pour cause. Les marées vertes sont une prolifération d'algues sur les plages en Bretagne et dégagent de l'hydrogène sulfuré, un gaz qui est potentiellement mortel pour les humains comme les animaux. Il faudrait alors changer complètement de mode de production alimentaire si le lien entre l'industrie agroalimentaire et les morts suspectées pour cause d'intoxication était avéré. Le film, sans être particulièrement original ou intéressant dans sa forme, attrape l'attention de son spectateur par un contenu passionnant, méconnu et révoltant. Après le générique de fin, on n'a qu'une envie, c'est se lever et agir.
Merci beaucoup pour en effet avoir parlé de ce film, comme tu le décris, plutôt simple dans la forme mais excellent sur le fond. Et on finit avec une chronique revue de presse de Nathan sur les inégalités hommes-femmes.
Exactement, alors je ne sais pas comment vous avez vécu ce début d'année, mais personnellement, entre l'incendie de Crans-Montana, le Venezuela ou encore la situation en Iran, je trouve que les infos sont assez difficiles à gérer. Ça tombe bien parce que je suis ici pour enfoncer le clou. Je m'inquiète aujourd'hui suite à la publication de plusieurs articles au sujet des inégalités hommes-femmes liées aux différentes crises actuelles. Un article du média digital David Scurse, publié il y a 4 jours, nous montre comment la crise alimentaire en Inde, liée à la raréfaction des ressources notamment, accentue les inégalités hommes-femmes. Le média Ens India indique quant à lui que la mortalité maternelle augmente dans un contexte de décroissance démographique et où donc les femmes sont mises sous pression afin de faire plus d'enfants. Ces exemples sont très minimes et je pourrais en citer des millions. Cependant, je n'ai pris que des revues publiées très récemment, c'est-à-dire aujourd'hui. Un article publié dans la revue anglophone Eco-Business indique que 2025 fut une année de frein dans la lutte contre de nombreuses inégalités, où l'on a vu en quoi ces luttes ont été fragilisées, notamment avec l'arrivée de Trump. En avril aura lieu la conférence de libération des femmes en Australie. Ce sera donc, on l'espère, une occasion pour les gouvernements, les activistes et autres d'amorcer des changements. Et donc, j'espère que ce sera l'année du réveil 2026 aussi.
Super, bravo à tous et à toutes. Je recite autour de la table, nous avions ce soir Héloïse, Gaïa, Éléonore, Rabab, Adèle, Zoé et Nathan. Et on les retrouvera dans une émission à l'Académie du Climat le 12 février 2026, autour de 19h. On a hâte de les écouter. À bientôt sur Radio Campus Paris.